Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Toujours hospitalisé, le pape François poursuit la thérapie appliquée par les médecins avec une légère amélioration du cadre clinique. Le pape qui a eu quelques séances de travail, il a signé quelques décrets des causes des saints, des décrets qui ont été promulgués mardi. Au Vatican et ailleurs dans le monde, plusieurs initiatives sont prises pour prier pour le pape François. Les évêques du Togo et du Soudan du Sud ont lancé aussi des appels à prier pour les saints-pères. Vous entendrez également les fidèles qui prient pour le pape depuis la polyclinique Gemelli où il est hospitalisé. Se convertir à l'espérance, c'est le cœur du message du pape François pour Carême 2025. Vous aurez les détails dans l'actualité de l'Église qui nous conduira aussi au Cameroun, en République démocratique du Congo, la RDC où les procureurs de la CPI, la Cour pénale internationale, est arrivé pour une visite de travail. Nous en parlerons dans l'actualité sociale et politique en Afrique qui nous conduira aussi au Soudan, en Mauritanie. Nous conclurons cette édition par notre rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Ouvrons l'actualité de l'Église par les bulletins de santé du pape. Mardi, dans la matinée, les médecins ont informé que le pape s'était bien reposé toute la nuit. Dans la journée, il a poursuivi la thérapie appliquée par les médecins et il n'y a pas eu d'autres crises respiratoires. Lundi, le pape avait également reçu le cardinal secrétaire d'État, Pietro Parolin, et les substituts pour les affaires générales de la secrétairie d'État, Monseigneur Edgar Peña-Para, pour la signature de quelques décrets des causes des saints qui ont été promulgués mardi. Le Saint-Père a donc autorisé la promulgation des décrets concernant 5 serviteurs de Dieu qui deviennent vénérables et des 2 bienheureux qui seront ainsi canonisés. Il s'agit du bienheureux Bartolo Longo, fondateur du sanctuaire marial des Pompéi en Italie, et de José Gregorio Hernández Cisneros du Venezuela, surnommé le médecin des pauvres. Toujours en lien avec l'hospitalisation du pape François, il y a une forte mobilisation à travers le monde pour prier pour la santé du Saint-Père. Lundi a eu lieu la prière du rosaire sur la place Saint-Pierre avec une forte participation des fidèles. Cette initiative aura désormais lieu chaque jour. Sur les continents africains, il y a également des appels à prier pour le pape. C'est le cas du Soudan du Sud et du Togo. Françoise Niamien.
Sous la conduite du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, des cardinaux membres de la curie romaine, évêques, prêtres, religieux, religieuses et fidèles ont récité lundi le Saint-Rosaire depuis la place Saint-Pierre. Tous ont supplié le Seigneur afin que le pape puisse recouvrer la santé. La prière du rosaire de mardi a été guidée par le cardinal Luis Tagle, pro-préfet du dicastère pour l'évangélisation. Aussi, à travers le monde, plusieurs initiatives de prière sont menées par des diocèses en vue de la santé du pape. Ainsi, la conférence des évêques du Togo convie le peuple de Dieu à un triduum de messe en soutien à la santé du pape les 25, 26 et 27 février dans toutes les paroisses et communautés. Ce triduum de messe se clôturera par un temps d'adoration au Très-Saint-Sacrement et de prière du chapelet le jeudi 27 février. Au diocèse de Tombora-Yambio, au Soudan du Sud, l'évêque Mgr Iboro Kuzala appelle à tous les membres du clergé, les religieux et les fidèles laïcs à s'unir dans une prière fervente pour un prompt et complet rétablissement du souverain pontife. Il s'agit d'offrir des prières spéciales, des célébrations eucharistiques, le chapelet et autres dévotions personnelles avec une supplication sincère pour la guérison du pape. Mgr Iboro Kuzala invoque également l'intercession de Sainte Joséphine Bakita comme modèle de persévérance et de foi dans la prière.
Merci Françoise. Et Françoise Niamien est également allée à la polyclinique Gemelli où est hospitalisé le pape François. Elle y a rencontré des fidèles qui prient pour le Saint-Père, dont les pères Jean-Pierre, prêtre haïtien.
C'est avec un esprit de solidarité, un esprit de communion et de prière que j'arrive ici en pèlerin d'espérance. Quand nous savons que le Saint-Père est quelqu'un qui est toujours en communion avec les pauvres et a toujours promu la compassion, la miséricorde, la proximité. Et nous voulons supporter le Saint-Père avec nos prières, être proche de lui en ces moments difficiles pour pouvoir vivre avec lui ces moments. Et nous sommes sûrs que nos prières auront la grâce que nous demandons, qui est le rétablissement complet pour le Saint-Père, pour qu'il puisse continuer cette mission de garder la barque de Saint-Pierre, de continuer à conduire l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Il a ouvert l'année jubilaire, justement, et nous sommes en plein dans cette expérience d'espérance. Et nous voudrions bien que cette espérance soit vécue par lui, pouvoir terminer cette année qu'il a bien ouverte et que les pèlerins du monde entier sont ici présents et comme témoins, comme pèlerins de cette espérance que nous prenons et que nous vivons.
Vous venez de suivre le père Jean-Pierre de la Congrégation du Saint-Esprit, prêtre d'origine haïtienne. Dans son message de carême 2025 publié mardi, le pape François reprend les thèmes du jubilé pèlerin d'espérance, pour inviter l'Église tout entière à se convertir. Chaque chrétien doit prendre conscience de sa situation de pèlerin et marcher avec les autres enfants de Dieu vers la grande promesse, c'est-à-dire la vie éternelle, écrit le pape François.
Les détails avec Olivier Bonnel.
Le carême fait référence à plusieurs passages bibliques, mais le souverain pontife choisit cette année le long voyage du peuple d'Israël vers la terre promise, raconté dans le livre de l'Exode. Un épisode, explique François, qui nous fait penser à tant de frères et sœurs qui aujourd'hui fuient des situations de misère et de violence, partant à la recherche d'une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leur être cher. Assurant que nous sommes tous des pèlerins, François lance ainsi son premier appel à la conversion, en proposant d'ailleurs une confrontation concrète avec la réalité d'un migrant ou d'un pèlerin durant ce temps de carême, afin de découvrir, dit-il, ce que Dieu nous demande pour être de meilleurs voyageurs vers la maison du Père. Marcher ensemble est fondamental, poursuit le pape, c'est même la vocation de l'Église, et François d'exhorter ainsi à la capacité de nous écouter les uns les autres. Enfin, c'est bien à la conversion, à l'espérance qu'appelle le Saint-Père durant ce temps de carême, cette espérance dans la résurrection qui est la première espérance des chrétiens. Un message qui se conclut sur ces paroles de sainte Thérèse de Lisieux. « Espère, ô mon âme, espère, tu ignores le jour et l'heure. »
Olivier Bonnel.
L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit au Cameroun. La cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala était samedi parée aux couleurs blanches avec des représentations de la miséricorde divine et du logo du jubilé de l'espérance pour exprimer les aspirations des 10 membres du clergé de l'archidiocèse de Douala, nouveaux prêtres et nouveaux diacres. Dans son homélie, l'archevêque Mgr Samuel Cléda est revenu sur les exigences des ministères diaconal et presbytéral. Paul-Valéry Mendogo.
La cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala était parée aux couleurs blanches avec des représentations de la miséricorde divine et du logo du jubilé de l'espérance pour exprimer les aspirations des 10 nouveaux membres du clergé de l'archidiocèse de Douala. L'abbé Thomas Pouguet-Billon s'est fait leur porte-parole devant la presse.
Ce n'est que par plus grâce d'être ordonné. On ne devait pas prêtre parce qu'on a mérité ou parce qu'on a été le plus méritant. Mais tout simplement parce qu'on a bénéficié de la grâce de Dieu. Et c'est un motif pour moi et pour mon confrère de rendre grâce à Dieu.
Dans son homélie, l'archevêque de Douala, Mgr Samuel Cléda, a rappelé aux nouveaux clercs que le monde doit se soumettre à l'Évangile et non l'inverse. En d'autres termes, a-t-il poursuivi, le prêtre n'a pas le droit de cacher les exigences de l'Évangile pour plaire aux hommes. Il les a donc encouragés à annoncer la bonne nouvelle sans peur des puissants de ce monde et de tout ce qui, apportant un soutien matériel et financier à l'Église, veulent lui imposer leurs désirs, très souvent contraires au plan du Créateur. Cette ordination sacerdotale a été précédée d'une retraite spirituelle de 7 jours sous le thème « Vous serez mes témoins à la recherche de l'essentiel, serviteur comme Jésus qui n'est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie pour la multitude ». Paul-Valéry Mendogo de Douala pour Radio Vatican.
Appel au calme dans la province congolaise du Nord Kivu qui fait face à l'avancée du M23 soutenue par le Rwanda. L'évêque de Beni Butembo, Mgr Melchisedek Sikuli, a signé le 20 février avec 6 autres chefs des confessions religieuses, protestantes, évangéliques et anglicans, un appel à la paix et au calme dans les nord de la province du Nord Kivu. Un sentiment de peur, de panique, d'agitation et d'angoisse a pris la population face à l'avancée de la guerre. Après la prise par les mouvements du 23 mars, les M23, de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Les détails de Jean-Baptiste Malengue.
Personne n'ignore les conséquences tragiques de toute guerre, de tout conflit, écrivent les chefs de confession religieuse. Et ils citent la perte en vies humaines, le vol et la destruction des biens, les déplacements des populations, traumatisme, agitation, perturbation du calme habituel et nécessaire à toute vie normale et apaisée. En pareilles circonstances, poursuivent les chefs des églises catholiques, protestantes, anglicanes et évangéliques, il n'est malheureusement pas exclu que des agitateurs de tous bords, des manipulateurs d'opinion et des bandits en profitent pour détruire, pour abîmer et fragiliser davantage. Et les chefs de cette confession religieuse de Butembo Beni, au nom de la foi en Dieu, adressent à tous un appel à la paix, à la non-violence et à la vigilance responsable. Que tous deviennent des instruments de la paix et non de la mort, parce que la vie est sacrée et la dignité humaine est infinie, a dit M. l'abbé Ignace Matsungu, chancelier de l'évêque de Butembo Beni. Il a lu le message des chefs de confession religieuse le jeudi 20 février en 3 langues, français, kiswahili et kinande. Les chefs de confession religieuse invitent aussi au respect des biens de toute personne et au respect absolu du droit international humanitaire, à savoir notamment le respect et la protection des lieux de culte, écoles, hôpitaux, bibliothèques, monuments historiques, musées, environnements et récoltes. Restons fermes dans la foi au Seigneur qui ne peut jamais nous abandonner, recommandent les 7 chefs des confessions religieuses de la partie nord de la province du Nord Kivu. Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Restons en République démocratique du Congo pour commencer avec l'actualité sociale et politique en Afrique. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, est arrivé dans la nuit de lundi à mardi à Kinshasa, la capitale, pour une visite en RDC, où le conflit avec le Rwanda s'est intensifié dans l'Est ces dernières semaines. Nous sommes extrêmement inquiets des récents développements au Congo. Nous savons que la situation, particulièrement dans l'Est, est grave, a-t-il déclaré à la presse à son arrivée, ajoutant qu'aucun groupe armé, aucune force armée, aucun allié d'un groupe armé ou d'une force armée n'a de chèque blanc. Ils doivent respecter les droits internationaux humanitaires, a-t-il lancé. Durant sa visite, Karim Khan doit rencontrer les présidents de la RDC Félix Tshisekedi, des ministres, la représentante du secrétaire général de l'ONU dans ce pays, ainsi que des victimes et des membres de la société civile. Par ailleurs, les dirigeants des pays d'Afrique australe et de l'Est ont nommé 3 anciens dirigeants du Kenya, de l'Éthiopie et du Nigeria pour être les facilitateurs d'un processus de paix dans l'Est de la RDC, selon un communiqué des 2 blocs régionaux publié lundi. Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, et Haile Mariam Desalegn, ancien premier ministre d'Éthiopie, sont nommés facilitateurs du processus de paix de l'EAC SADC dans l'est de la RDC, écrivent les 2 blocs dans un communiqué conjoint. La communauté de développement de l'Afrique australe et la communauté d'Afrique de l'Est s'étaient mises d'accord lors de leur sommet pour fusionner les processus de paix dits de Luanda et de Nairobi qui tentaient de trouver une solution pacifique au conflit. L'Organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, a accusé mardi une milice alliée à l'armée soudanaise d'avoir mené en janvier une attaque qui a fait au moins 26 morts dans un village du centre du Soudan. Cette milice, les forces du bouclier soudanais, a intentionnellement visé des civils lors d'une attaque menée le 10 janvier contre les villages de Taïba dans l'état d'Al-Jazira, où les combats entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide se sont intensifiés au cours des dernières semaines, a affirmé Human Rights Watch dans un communiqué. 20 ans de prison ferme requis en appel contre l'ex-président mauritanien Mohamed Abdelaziz, jugé depuis novembre en appel à Nouakchott pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une fortune immense. Le procureur général de la cour d'appel Sidi Mohamed Ould Di Ould Moulaï a reproché à l'ex-chef d'État d'avoir mis à profit sa fonction pour des intérêts personnels. Abdelaziz a transformé la présidence en bureau pour exercer les chantages sur les investisseurs, a-t-il dit dans son réquisitoire en arabe. Concluons cette édition avec la rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Fabrice Baguendekere.
Oui, Stanislas. La première rencontre intercontinentale des OPM d'Asie et d'Océanie a eu lieu à Sydney, capitale de l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. La rencontre qui s'est poursuivie jusque dimanche a connu la participation des directeurs nationaux représentant plus de 20 pays des deux continents. Le fil conducteur de ces 5 journées a été l'invitation du pape François à être missionnaire d'espérance parmi les peuples, devise de la prochaine journée mondiale des missions. Les assises se sont concentrées sur l'importance de travailler ensemble sur les urgences et les espoirs qui animent l'œuvre missionnaire dans les différentes situations locales. Les participants à la rencontre ont aussi adressé un affectueux message de proximité dans la prière au pape François, actuellement hospitalisé à l'hôpital Gemelli de Rome. Les diocèses de la Syrie sont tous mobilisés dans la prière pour le rétablissement du pape. C'est ce qu'a fait savoir Mgr Jacques Mourad, archevêque syriaque catholique de Homs dans l'ouest de la Syrie. Mgr Mourad qui estime que l'Église a encore besoin de François pour parachever les réformes qu'il a entreprises depuis le début de son pontificat.
Dans toutes les paroisses, les 12 paroisses de notre diocèse, on fait tous les jours les chapelets pour sa santé parce que on connaît très bien combien la Syrie était dans le cœur et dans la prière de tous les jours du pape François. Donc ça c'est le moins qu'on peut faire pour lui, c'est de prier pour lui, pour sa santé, parce que l'Église a besoin de lui. Sa mission pour le renouvellement de notre Église, que soit une Église de toute la population, de tout le monde, ce n'est pas encore complété cette mission du pape François. Donc, on a besoin de lui encore.
Dans une interview accordée à la rédaction ucrainienne de Radio Vatican, le nonce apostolique du Saint-Siège à Kiev, Mgr Vivaldas Kulbokas, a livré une réflexion sur les conflits en Ukraine à l'occasion de l'anniversaire des 3 ans depuis les débuts des escalades. Dans ces conflits, a-t-il souligné, les prisonniers civils sont les grands oubliés. Selon les diplomates, une mobilisation collective des consciences est nécessaire pour éradiquer à leur source les causes de cette guerre.
Je partirai d'un exemple pour souligner ce qu'est la guerre et du récit d'une personne, une civile d'une 60aine d'années qui a été retenue prisonnière en Russie pendant presque 3 ans. Elle m'a raconté qu'elle a traversé une période très difficile au cours de laquelle elle a été privée de sommeil pendant plusieurs semaines, ce qui est un moyen de torture. Et elle disait que rien que cet aspect, le fait de ne pas pouvoir dormir pendant 2 ou 3 semaines, génère une grande difficulté. Elle ne parvenait plus à comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qui correspond à la réalité? Qu'est-ce qui est fantaisie ou suggestion? Elle ne se rappelle même plus ce qu'elle a signé, car souvent, au cours des interrogatoires, il est demandé aux prisonniers de signer des documents. Donc ça, c'est le monde dans lequel se trouvent plusieurs milliers de personnes. Et jusqu'à présent, moi-même, je n'ai trouvé aucun moyen efficace qui puisse fonctionner. Et à nouveau, je confie la situation de ces milliers de prisonniers dans une situation désespérée à la prière de tous. Car seul le Seigneur Tout-Puissant peut donner de l'espérance contre toute espérance, comme le Saint-Père lui-même l'a écrit dans la bulle d'indiction du Jubilé.
Des propos recueillis par Svitlana Dukovic de la rédaction ukrainienne de Radio Vatican. Aveu du meurtrier du prêtre Gégorge Dimek, retrouvé mort, étranglé dans le presbytère le soir du 13 février à Kobuk, une ville située dans le nord de la Pologne. Le suspect, un ancien policier de 52 ans, licencié en 2001 pour des raisons disciplinaires, a avoué le meurtre du prêtre sans toutefois expliquer ce qui l'a poussé à commettre ce crime atroce. L'autopsie pratiquée sur les corps du prêtre a en effet révélé que la cause du décès était la suffocation. La piste la plus crédible pour le moment serait celle du vol, ce que les prêtres avaient annoncé lors des dernières messes qu'environ 80 000 zloty avaient été collectés pour les besoins de la paroisse, soit près de 20 000 euros, a signalé l'agence Fides.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique des Radios Vatican, Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.